before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in.
Bonsoir à tous, c'est avec une immense joie que je vous retrouve comme d'habitude sur les antennes de Fréquence Mistral. Bienvenue dans l'œil de sable. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir une personnalité qui incarne à merveille l'esprit créatif et dynamique de notre époque. Notre invité est un véritable virtuose du roller, capable de conquérir les cœurs et d'inspirer des milliers de personnes, tant sur les réseaux sociaux que dans la vie réelle. Sans plus attendre, accueillons Jérémy Héry. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir.
Enfin.
Oui, enfin.
On a mis du temps, hein.
C'est ça, oui.
Pour caler une date. Merci infiniment, vraiment, d'avoir accepté notre invitation.
C'est avec un grand plaisir de pouvoir venir.
Je suis très heureuse. Et ben, pour commencer cette exploration de votre univers sur roulette, chaque roller a son propre style. Comment décririez-vous le vôtre ?
Moi, mon style, c'est très urbain, très lifestyle aussi. Et le plaisir de rouler.
Mais y a-t-il une figure signature ou une philosophie de glisse qui vous représente le mieux ?
Oui, ça va être... Après, il y a des figures techniques, un certain nom. J'aime bien croiser mes jambes tout le temps. Voilà.
Et j'imagine que chaque discipline a ses propres sensations et défis. Quelles sont les disciplines du roller que vous préférez ?
Moi, c'est le slalom. C'est ma discipline préférée. Après, j'aime bien le speed slalom et la hauteur pure. C'est les trois disciplines que je pratique le plus.
Mais y a-t-il une que vous avez essayée et finalement rapidement abandonnée ?
Pas sur ces trois-là, non. Je les ai tous fait les trois en même temps et je les ai tous travaillés.
Mais vous n'avez pas fait d'autres ?
Si, j'ai fait de la rampe, du street dans les rampes. J'en ai fait un peu et j'ai pas abandonné. J'en ai fait de temps en temps, mais c'est pas celle que je préfère le plus. Celle que je travaille à côté.
Pourriez-vous décrire une sensation unique que le roller vous procure ?
La sensation de bonheur et de joie.
Est-ce qu'on se sent un peu invincible ?
À ce moment-là, oui. Quand on est sur les rollers, qu'on est dans la ville ou qu'on se balade, on se sent totalement libre. Et il y a vraiment cette joie, cette... C'est vraiment ce côté bonheur qui est là et tous les problèmes qu'on a où on est concentré sur notre truc et c'est le moment où on peut se vider la tête.
Et avec 762 000 abonnés sur TikTok et 68 500 sur Instagram, vous avez construit une communauté impressionnante. Quelle émotion ressentez-vous face à ce succès ?
Déjà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais oui, je suis... impressionné et puis je m'attendais pas grâce à du roller, grâce à moi, grâce à ce que je fais, d'avoir une communauté aussi grande et d'avoir des gens qui me soutiennent sur ce que je fais. Et ce qui est compliqué, c'est que le roller aujourd'hui c'est quelque chose d'assez niche et de voir que j'arrive à le développer grâce à mes réseaux et donner aux gens envie d'en faire par la suite, ça me remplit de bonheur en plus de ça. Donc je n'ai pas les mots en fait pour décrire la joie et le bonheur que j'ai de ça, quoi.
Mais cela dépasse-t-il vos attentes ?
Ah, clairement oui, ça dépasse mes attentes parce que moi j'ai commencé vraiment dans le but de pouvoir juste de faire ma passion, voilà, pratiquer et en fait je m'en suis rendu compte, après un jour je me suis dit pourquoi pas poster mes vidéos sur les réseaux et voir ce que ça peut donner, parce que moi je voulais partager ma passion. Et j'ai remarqué que ça a beaucoup plu, énormément de gens.
Voilà. Et ben justement, on va faire étape par étape, on va en parler, tout ça. Et la question là qui me vient de suite en tête, est-ce qu'avec une telle visibilité sur les réseaux sociaux, comment gérez-vous la pression de maintenir un niveau élevé de performance et d'engagement avec vos abonnés ?
J'essaye de, à chaque fois que je poste une vidéo, j'essaye d'être là, présent pour mes abonnés. J'ai beaucoup de questions qui reviennent souvent de comment faire ci, comment faire ça, quel matériel tu utilises. Et j'essaie d'être le plus proche possible de mes abonnés et de répondre à tout le monde. Et puis c'est un plaisir pour moi de pouvoir, bah forcément, quand je vois quelqu'un qui est, qui voit mes vidéos, qui me dit, bah, tu me donnes envie d'en faire, j'en ai jamais fait, et c'est grâce à toi que je fais du roller, bah, ça me dit, bah, c'est mon but en fait, c'est ce que je recherche, et je vois que ça atteint, j'arrive à atteindre ce but-là. Donc.
Et en quoi pensez-vous quand même que les réseaux sociaux ont changé la perception du roller?
Je pense aussi qu'il y a un côté où moi j'essaye de travailler sur la conception de mes vidéos, sur le contenu que je propose. Je ne fais pas simplement du roller comme ça. J'essaye de montrer ce qu'il y a autour du roller. Donc oui, il y a le roller, mais il y a l'à côté. Donc tout ce qu'on peut faire à côté quand on fait du roller, il n'y a pas simplement juste être sur des roues. Il y a aussi le côté, comme je dis tout à l'heure, la liberté, la joie, le partage aussi, les rencontres avec les autres personnes, parce que forcément, on n'est pas forcément les seuls à faire du roller. Donc, ça permet aussi de se créer des amis, des nouvelles rencontres et de pouvoir partager une passion commune.
Donc à chaque fois, vous innovez justement dans vos vidéos pour maintenir votre créativité au quotidien.
C'est ça. Donc, en général, sur mes vidéos, je vais changer de temps en temps. Je vais faire des vidéos un peu plus lifestyle où je vais raconter un peu ce que je fais et ce qu'on peut faire avec le roller. Et de temps en temps, je fais des petites vidéos un peu plus, on va dire, entre guillemets, chill, où ça va être juste de la balade sur une petite musique, où on représente le sud, forcément, parce que j'ai toujours habité ici, dans le sud. Donc voilà, donc c'est un peu, j'essaie d'innover sur ces vidéos-là et de partager au maximum ce qu'on peut faire avec le roller.
Et quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant que créateur de contenu?
C'est vraiment de pouvoir continuer à être proche de mes abonnés, de me diversifier sur mes contenus aussi, parce que par rapport à d'autres contenus, ça peut être très vite redondant. Donc le but c'est de pouvoir diversifier et vraiment de que ce soit accessible à tout le monde aussi. C'est que ça se démocratise et que ce soit accessible à tout le monde.
J'apprécie beaucoup ce que vous dites parce que ça fait deux fois que vous sortez la phrase être proche de mes abonnés.
Oui.
Je vois que c'est extrêmement important pour vous.
Ah oui, c'est très important pour moi. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages et j'essaie de répondre au maximum à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je ne peux pas parce qu'il y a beaucoup de messages aussi, mais j'essaie vraiment d'être proche parce que le roller, on va dire, c'est une communauté. Quand on est sur le terrain, hein, par exemple, on est avec des gens, donc c'est le partage en physique. Et moi, sur mes réseaux, j'essaie de transmettre ça par rapport à mes réseaux, donc d'avoir le partage en virtuel. Et s'il n'y a pas ce partage-là, il ne peut pas y avoir de développement là-dessus. Donc que ce soit en physique ou que ce soit en virtuel, il faut avoir ce partage absolument. Quand on partage une passion.
Mais y a-t-il une vidéo en particulier qui a vraiment propulsé votre popularité?
Alors, y a eu quelques vidéos. On va dire que là, c'était plus dans le côté humoristique. Par exemple, il y a quelques années de ça, j'ai fait une vidéo. Enfin, j'appelle ça la vidéo du T-Rex ou la vidéo du Titan. C'est des vidéos que j'ai faites juste sur le côté humoristique, où j'avais une caméra que j'ai mise dans ma bouche pour faire référence à des, par exemple, au Titan, où ça fait référence à un manga, et le T-Rex, ça fait référence au Jurassic Park ou Jurassic World. Et ces vidéos-là m'ont propulsé forcément parce qu'elles ont atteint aussi l'international, puisqu'il n'y avait pas forcément de paroles, il y avait une musique, et il y avait ce côté humoristique qui faisait référence à des dessins animés ou des films. Et ça a atteint un public international. Et par la suite, de ce public-là, j'ai vu qu'il y avait du potentiel à ce niveau-là. Et bon, après, je me suis plus tourné sur le côté urbain, lifestyle, comme je fais aujourd'hui.
Vous avez eu l'opportunité de collaborer avec des marques prestigieuses comme Nike et même avec TikTok France. Pouvez-vous un peu nous raconter justement comment cela s'est passé?
Alors, pour la petite histoire, moi j'ai commencé à poster sur les réseaux, sur TikTok. À l'époque, c'était Musical.ly. J'ai commencé à poster là-dessus et bon, je postais mes petites vidéos comme ça. Et un jour, il y a eu la transition Musical.ly TikTok. Donc moi, j'étais vraiment tout au début. de TikTok. Et c'était le moment où pas grand monde postait, mais pratiquement tout le monde avait l'application. Donc ça veut dire que moi qui me démarquais des autres, où il y avait encore cette transition de Musical.ly, où c'était encore beaucoup de playback voilà, qu'il y avait sur ce réseau-là, je me démarquais parce que je postais quelque chose d'original et nouveau. Donc à ce moment-là, forcément, TikTok France m'ont repéré. J'avais beaucoup de vidéos qui dépassaient les 200, 300, 400 000 vues, même des 1 million assez souvent. Donc TikTok France m'a repéré et ça arrivait qu'ils m'ont contacté pour venir sur Paris. Et il y a eu des événements qui s'étaient bien passés d'ailleurs.
Et est-ce que aussi vous avez pris l'initiative aussi de contacter des marques pour faire des partenariats ?
Alors, au tout début, non. Parce que après je me sentais pas forcément légitime de... parce que ça arrivait très vite hein, tout ça. Moi à la base je suis quelqu'un qui fait juste du roller par passion comme ça de mon côté, et j'ai vu que mes vidéos ont explosé sur les réseaux et je me sentais pas forcément légitime de me dire bon bah je vais contacter une marque pour faire une collaboration. Voilà, au début je faisais comme ça, puis après je me suis rendu compte que plus mes vidéos fonctionnaient, plus je me disais oui en fait peut-être que j'ai ma place dans ce monde de l'influence, qui est un très grand monde complexe à se faire démarquer. Et je me suis rendu compte que oui, peut-être que j'ai ma place dans un domaine qui est différent. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas maintenant, oui, proposer mon profil et proposer à des marques l'originalité de mon profil, parce que c'est totalement différent de ce qu'on propose d'habitude sur les réseaux. Donc là, oui, à ce moment-là, donc ça fait quelques temps, là, ça va peut-être faire un an ou deux ans, oui, où je me suis dit, pourquoi pas contacter des marques.
Et comment ça se passe? Comment on contacte les marques?
Soit c'est par mail ou des fois par Instagram directement. J'ai pas forcément des réponses positives tout le temps, ou j'ai pas forcément de réponse du tout, parce que si c'est des grosses marques, peut-être qu'ils voient pas mon message. Parce que même si j'ai beaucoup d'abonnés, il y a énormément d'autres influenceurs ou des célébrités aussi qui ils travaillent. Donc je me dis, bon bah c'est pas grave s'ils me répondent pas. Peut-être qu'un jour ils répondent. Ça peut m'arriver qu'il y ait une marque qui me réponde peut-être 2, 3 mois, 4 mois après, ou même 6 mois. Par exemple, il y a un an ou deux, j'ai contacté une marque parce que forcément, je fais du roller. Donc, ce qui va avec, c'est aussi le côté matériel pour filmer. Donc, moi, ça m'arrive aussi de contacter des marques de caméras, comme ça. Donc, moi, il y a quelques années, j'ai contacté une marque de caméras. Elle ne m'avait pas répondu. Elle n'avait pas vu le message. Mais peut-être il y a peut-être 2-3 semaines, cette marque m'a contacté pour collaborer avec eux.
Quel est le partenariat qui a le plus résonné avec votre personnalité ou votre style de glisse?
Il y a eu peut-être une marque. C'est vrai qu'Adidas, quand j'ai travaillé avec Nike, ça correspondait à ma personnalité parce que c'est une marque sportive. Donc forcément c'était une bonne marque donc qui collaborait avec moi, et aussi j'ai eu la marque Flanners.
Donc juste comme ça on va citer 3 marques.
Ouais.
Allez, citez-moi comme ça 3 marques.
Flanners, il y a eu Insta360 et après il y a eu Nike. Voilà.
Et quelles ont été justement les clés de votre succès dans ces partenariats?
Mon engagement. Ma régularité. Quand je fais des collaborations, j'aime bien les faire proprement et correctement. Donc, puis quand ça touche à ma passion, forcément, je veux que ce soit carré. Donc, c'est vraiment ma force à ce niveau-là. Et j'essaye vraiment de. On me dit ce qu'il y a à faire et je le fais vraiment très, très proprement.
Est-ce que vous avez une équipe pour gérer cela? Tous ces aspects, partenariat, sponsoring?
Non.
Non.
Non, je fais en autodidacte. J'ai déjà été en... Après, j'ai aussi ma compagne qui me suit, qui m'aide pour discuter avec des marques ou quand je ne sais pas forcément comment faire les choses. Elle est là pour m'aider aussi.
Elle fait un peu le management ou pas? Je la regarde parce qu'elle est là,
elle se trouve
dans le studio de Fréquence Mistral. Allez, oui, comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Laura.
Laura, oui. Bonsoir Laura. Allez à côté de votre compagnon, allez-y. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Ah, je ne vous entends pas, allez-y.
Bonsoir.
Ah bah là, ça y est, ouais, on entend sa jolie voix. Alors, vous faites un peu son management?
Disons que j'essaye surtout d'être présente pour lui quand il a besoin de gérer les messages pour faire le tri en fait entre sa femme, ses abonnés et les marques. Donc je suis là pour faire le tri, je suis là pour aussi essayer de gérer qui est le plus intéressant aussi, parce que malheureusement dans le monde de l'influence il y a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir de la visibilité. Donc ils vont vers les influenceurs ou vers les personnes qui peuvent porter un message sans vraiment avoir quelque chose à offrir en retour. Donc malheureusement, c'est compliqué de trouver le profil qui correspond le plus à ce que lui recherche et ce que la marque peut aussi rechercher. Donc je suis là un petit peu pour ça. Après j'essaye aussi, parce qu'il ne parle pas très bien anglais, donc il y a besoin des fois d'envoyer des messages en anglais et je suis là aussi pour ça.
Est-ce que pour vous c'est nouveau tout ça de faire le management d'un athlète?
Nouveau, je sais pas, parce que j'ai eu des expériences moi en tant que j'ai fait un stage en tant que community manager, donc du coup j'ai pu un peu toucher du doigt ce métier, donc ça m'a aussi vachement aidée. Mais après le terme athlète, bon, oui, je pense que c'est nouveau. Et surtout, il faut qu'on arrive à réaliser tous les deux que ben, il a une communauté et qu'il a un avenir là-dedans. Donc c'est surtout, je pense, garder les pieds sur terre, mais aussi prendre conscience des choses.
Un dernier mot pour Jérémy?
Ben, je suis extrêmement fière de lui et puis j'espère que ça va continuer encore très longtemps.
C'est beau.
Ouais, c'est beau.
Merci beaucoup, Laura.
Merci.
Jérémy, à quel moment cette passion pour le roller diffusée sur les réseaux a-t-elle cessé d'être un simple hobby, mais surtout pour devenir un projet qui mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup de votre temps et le temps de Laura aussi?
À quel moment? Après, j'ai pas eu un moment fixe, on va dire, un moment précis. Ça s'est fait au fur et à mesure. Parce que bah forcément, j'ai des vidéos qui ont commencé à avoir de plus en plus de vues. Et au début, je pensais que c'est une grande place dans ma vie, mais en même temps, je pensais que ça resterait juste à la base, peut-être juste un hobby où, oui, de temps en temps, je fais des petites vidéos sur les réseaux, j'ai un peu de vues, c'est cool, je peux partager ma passion avec des gens. Et je me rends compte que de plus en plus, ça devient de plus en plus gros. C'est comme si quelqu'un qui... créer sa petite marque, se dit bon, moi je fais ça, ma petite marque en local, je la crée, je fais mes petits trucs à côté, j'essaie de le développer juste sur le local, et qu'au final se retrouve à exploser et à taper dans l'international. Donc c'est un peu le même principe où moi je suis ma marque, et à la base je suis pas voilà, c'est vraiment, je commençais à faire ça tout seul de mon côté. J'ai commencé à le faire avec mon frère, on est des grands passionnés. Et j'ai toujours aimé poster aussi sur les réseaux, mais je pensais pas que tout ça allait aller aussi loin. Donc ça fait vraiment plaisir.
Alors certains diront qu'être créateur de contenu sur les réseaux sociaux est aussi une forme de compétition, mais face à un algorithme. Comment décririez-vous les défis propres à cette compétition moderne, entre guillemets, comparée à celle des podiums?
Alors sur le côté effectivement sur l'algorithme TikTok ou que ce soit sur Insta, des fois, on peut avoir un peu de frustration parce qu'on a créé une vidéo qui est... on se dit, on a pris du temps à la faire, on l'a bien construit, et bah, au final, elle n'arrive pas à nos attentes. Mais j'essaye de me dire, si effectivement, je poste une vidéo qui n'a pas forcément arrivé à mes attentes, bah, je la poste quand même, et je me dis, bon, bah, c'est pas grave, j'en referai une plus tard où ça sera mieux. Et le but, c'est d'aller toujours plus loin. Et moi, le principal, c'est pas forcément les vues aussi. C'est toujours bien d'en avoir, mais en même temps, je me dis, si imaginons demain, j'ai que 5000 vues sur une vidéo, je préfère que sur ces 5000 vues, ça soit vraiment mes abonnés présents qui soient là et que je puisse partager. Que d'avoir 3 millions de vues et qu'au final, sur ces 3 millions, bah, y a pas grand monde qui ont vu une vidéo et c'est tout. Moi je suis quelqu'un qui est réaliste là-dessus, ça veut dire que les réseaux, effectivement, c'est bien de pouvoir exposer ce qu'on aime, mais voilà, ça peut être aussi voilà, sur l'algorithme c'est aléatoire, donc forcément on peut pas forcément savoir ce qui va fonctionner ou pas. Donc comme elle a dit tout à l'heure ma compagne, il faut rester aussi les pieds sur terre et continuer juste à pas se prendre la tête et à partager sa passion et pas penser forcément à l'algorithme, aux vues et en compétition avec les autres influenceurs, parce que d'autres, oui, vont avoir plus de vues, mais voilà, faut pas rester en compétition avec eux.
Dans un instant, vous allez nous raconter votre histoire et comment on réalise ses rêves. Mais avant cela, je vous propose une courte pause musicale. Ça fait du bien d'écouter Michael Jackson, oui. N'est-ce pas?
Bah oui, carrément. Le roi de la pop.
Dites-moi.
Le roi de la pop.
Le roi de la pop, évidemment. Nous sommes de retour dans l'œil de Sab en compagnie de Jérémy Herry. Et il y a eu un instant, il y avait qui à côté de vous? Elle est toujours là, la personne.
Ma compagne.
Et oui, qui se nomme Laura. Jérémy Herry, en trois mots, ça donnerait quoi?
Souriant, motivé, passionné.
Selon vous, les souvenirs influencent-ils nos choix de vie?
Oui, totalement. Totalement. Parce que moi, j'ai commencé le roller quand j'étais enfant.
Fermez les yeux un instant. Jérémy, fermez bien les yeux, hein, parce que là, je suis en train de vous regarder. Hein. Si vous pouviez remonter le temps et donner un petit conseil à l'enfant que vous étiez, quel serait-il, hein?
De ne jamais lâcher, de toujours aller plus loin.
Vous pouvez les ouvrir. Et ben pour mieux comprendre, essayons d'imaginer le petit Jérémy qui grandit dans le sud de la France, à Toulon.
Oui.
Oui, Toulon même.
Toulon même.
Quel genre d'enfant étiez-vous?
J'étais un enfant un peu pas perturbé, mais plutôt qui bougeait de partout, qui adorait faire plein de choses, qui n'était pas quelqu'un de calme. Voilà, j'étais pas quelqu'un qui était renfermé sur moi-même. J'aimais bien m'amuser, faire des jeux d'enfants, voilà.
Quel était l'environnement familial dans lequel vous avez grandi ?
On va dire que j'ai pas eu une enfance très très facile. Moi, quand j'étais petit, ça se passait bien avec mes parents. Ma vie, en fait, avec mes parents, ça se passait bien au début. Mais il y a eu des complications et je me suis retrouvé à être dans le système social.
D'accord.
Voilà. Donc, j'ai pas vécu toute mon enfance avec mes parents.
D'accord. Donc, du coup, vous avez grandi dans une famille d'accueil ou...
J'ai fait des foyers, des familles d'accueil, voilà. Après, j'ai fait une partie de mon enfance avec mes parents et l'autre partie de mon enfance en placement. Ouais.
Donc, de quel âge à quel âge, alors ?
À partir de mes 14 ans jusqu'à mes 21 ans.
D'accord.
Voilà.
Et comment ça se fait ? C'est dû à quoi ?
Y a eu des soucis avec... plus avec mes parents, c'est pas plus de mon côté, mais nous, mon frère et moi, on était dans un milieu pas propice à des enfants. Donc, on pouvait pas rester dans un cadre où on pouvait être en danger sur certaines choses. Voilà.
Vous avez un frère, vous avez pas...
J'ai une petite sœur
vous
aussi.
Vous avez une petite sœur aussi ?
Mmh. Oui, j'ai 9 ans de différence avec ma petite sœur et j'ai 1 an et demi avec mon petit frère. Donc aujourd'hui, on se fait pas cette différence parce qu'un an et demi, c'est pas énorme. Donc, plus avec ma petite sœur, il y aura un peu plus de différence, effectivement.
Et évidemment, là, maintenant, vous revoyez régulièrement, j'imagine, vos parents ?
Mes parents, j'ai pas trop. Ma mère, je la vois pas énormément. Je la vois de temps en temps, mais pas beaucoup, même si elle habite à Toulon, parce qu'après, j'ai un peu ma vie aussi. Pareil avec mon frère, on s'entend toujours bien, mais on ne se voit pas beaucoup non plus, parce que forcément, chacun fait sa petite vie, donc on a un peu de mal à se voir souvent. Mais après, on reste en bonne entente, ça, il n'y a pas de souci. Hein, dès qu'on peut, on se voit, on fait même du roller ensemble, dès qu'on peut se voir, quoi.
Donc, avant les 10 ans, quel mot vous vient à l'esprit pour décrire votre famille ?
Famille unie.
Oui.
Unie. Ouais.
Et quelle est la profession de vos parents ?
Ma mère ne travaille plus aujourd'hui parce que elle a un handicap, donc elle peut plus travailler. Mon beau-père, il a travaillé dans le bâtiment, donc il a une société. Et là aujourd'hui, j'ai pas trop de relations directes avec lui, donc je sais pas trop ce qu'il fait exactement aujourd'hui, mais. Voilà, je pense qu'il a arrêté aussi de travailler par la suite. Ouais.
Alors, quel enseignement essentiel avez-vous reçu durant votre éducation, soit par votre famille ou bien peut-être les éducateurs,
oui.
et que ça vous guide encore aujourd'hui ?
Le respect des uns et des autres. Ne rien, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas lâcher ses motivations, parce que dans mon enfance, forcément, comme j'ai pas eu une enfance, on va dire, classique, fallait pas que je lâche mes objectifs. Ça veut dire que j'avais des objectifs en tête et c'était les choses où je pouvais me raccrocher parce que forcément on n'a pas comme une famille classique où on a les papa et maman qui sont là pour nous aider, nous aiguiller, nous apprendre des choses d'adolescents qu'on est censé apprendre grâce à nos parents. Je les ai pas forcément appris grâce de suite à mes parents. Je suis passé par un système, donc j'ai eu du mal pour du bien parce que ça m'a fait grandir aussi mentalement sur beaucoup de choses. C'est pas des choses que je prends mal en fait dans ma vie. Pour moi, c'est toujours été une force. Ça n'a jamais été quelque chose de mauvais. Oui, j'ai eu cette vie-là, mais peut-être que si j'avais une autre vie peut-être plus stable, ça aurait été différent. Peut-être que mentalement, j'aurais pas été comme ça.
L'école était-elle synonyme de joie ou d'angoisse peut-être ?
C'était pas de l'angoisse, c'était pas non plus de la joie, parce que je suis pas quelqu'un qui est à fond dans les études. Je n'ai pas trop aimé l'école. Moi, je me suis arrêté en terminale.
Ben quand même.
Je suis allé pas assez loin quand même, mais ça n'a jamais été ma motivation, l'école, parce que forcément, Je suis quelqu'un qui est passionné. Donc, ce que je faisais à l'école, pour moi, n'avait pas forcément d'intérêt. Oui, c'est bien d'apprendre quelques histoires, quelques connaissances sur l'histoire de la France, sur tout ce qui se passe aussi. C'est bien d'avoir ces connaissances, mais après, quand on va plus loin, pour moi, il n'y avait pas d'intérêt. Moi, je voulais aussi travailler, pouvoir gagner ma vie et pouvoir vivre aussi, pas forcément comme j'étais en placement, j'étais placé. Mon but, c'était aussi de vivre seul, de pouvoir avoir mon autonomie. Donc, si j'ai resté dans les cours, je ne pouvais pas avoir mon autonomie en restant à l'école.
Mais qu'est-ce que vous avez le plus appris quand même à l'école en dehors des matières courantes?
Quand même, j'ai appris à réfléchir. Enfin, ça, on l'apprend du plus jeune âge à réfléchir, mais à pouvoir comprendre ce qu'il y a de mauvais, de pas bien, de bon, de savoir ce qui peut être bien pour moi, ce qui peut être mauvais ou ce qui peut me faire évoluer aussi à ce niveau-là. Donc, voilà.
Allez, on parle de votre histoire avec le roller qui a débuté très tôt. L'âge, 7 ans?
7 ans.
7 ans. Et comment s'est passée cette rencontre avec vos premiers rollers trouvés dans une rue à Toulon?
Alors, c'était à l'époque où j'étais encore avec ma famille. Donc, on était tous ensemble. On était une famille unie, comme j'ai expliqué au début. C'est mon beau-père qui m'a fait découvrir le roller. Lui, il en faisait aussi étant jeune. Il lui faisait très bien aussi du roller. Et ma première paire de rollers, c'était une paire de rollers achetée au marché aux puces. Voilà, une paire de rollers qui coûtait même pas 5 euros. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire un petit peu de roller. Il m'a appris des trucs.
Alors,
Et
qu'est-ce qui vous a appris exactement?
bah avancer. Les trucs basiques quand on a un enfant, quand on n'a jamais fait de roller, c'est apprendre à avancer, à tomber correctement.
Alors, là, vous les mettez, les premières, donc
Oui, c'est
les
ça.
premiers rollers que vous avez achetés aux puces, mais quelles ont été vos toutes premières sensations sur ces roulettes?
C'est des souvenirs qui remontent à loin, donc c'est encore un peu flou. Mais c'était cette sensation de me dire je roule et je marche pas. Donc je trouvais ça génial. Après, en étant enfant, c'est encore plus génial parce que forcément, on découvre une nouvelle chose et c'est différent. Donc forcément, j'étais là, wow, c'était incroyable. Mais après, c'est comme tout enfant, on fait quelque chose et on lâche un peu parce qu'on a d'autres choses à vouloir faire, à jouer aussi. Il y a d'autres jeux qu'on peut faire aussi. Et j'ai toujours fait un petit peu de roller, on va dire, une fois dans le mois, une fois dans le mois ou une fois dans la, enfin plusieurs fois dans l'année. Et un jour, je me baladais tranquillement. J'étais à Sifour et je me baladais en roller et je suis tombé sur un groupe de gens qui faisaient du slalom, ce que je pratiquais jusqu'à présent. Et c'est à ce moment-là précis que je me suis dit, je veux faire ça.
Mais est-ce qu'on vous a inscrit à des cours? Vous avez pris des cours ou finalement vous avez appris de manière autodidacte?
Au début, j'ai commencé à apprendre seul. Quand j'ai su faire quelques petites figures, j'ai montré à mon frère. Mon frère, il a vu ça, il a dit, mais c'est pareil, il est comme moi, il a dit, c'est incroyable, je veux faire ça aussi. Donc on a commencé à apprendre ensemble. Et puis après, on s'est dit, mais enfin, il nous faut aussi un coach, un prof pour nous apprendre d'autres figures. Donc on a essayé de trouver des clubs. On habitait à l'époque à Sifour, donc on a cherché des clubs, on a trouvé un club à Sanary. Et à ce moment-là, on n'a pas arrêté. On s'est dit, bon, bah, on y va, quoi. Parce que c'est des figures beaux à voir. C'est aussi du dépassement de soi. Donc, on voulait aller plus loin. Et à ce moment-là, on s'est dit, non, mais on va continuer, quoi. On ne va pas s'arrêter.
Donc là, vous avez quel âge à peu près?
J'ai 29 ans.
29... Non, mais à cette époque.
Ah, à cette époque-là, excusez-moi. Là, à cette époque-là, j'avais 17 ans.
17 ans,
Voilà.
ok. Et à quel moment, justement, cette simple activité de loisir, donc avec votre frère, s'est-elle transformée en une véritable passion pour vous au point de vous donner envie d'aller au-delà du plaisir personnel et de vous lancer dans le défi de la compétition?
C'est parce que du coup, quand on a commencé à faire du slalom, on s'est dit que on avait entre guillemets du retard à rattraper parce que le niveau dans cette discipline est très élevé et ces gens-là, enfin les gens qui ont un niveau à notre âge, à 17 ans par exemple, ils avaient déjà commencé le slalom 10 ans auparavant. Moi, je faisais un peu de roller mais juste par loisir. Et cette discipline, ça demande énormément de travail, d'entraînement. Donc on a aussi beaucoup d'esprit de compétition parce que moi je suis sportif de base et mon frère aussi.
Qu'est-ce que vous faites alors comme sport?
À l'époque je faisais de l'athlétisme, j'en ai fait pendant un an. Et mon frère aussi il en a fait, après j'ai fait un peu de danse aussi, parce que j'aime bien aussi les sports artistiques, c'est pour ça que je fais aussi du roller. Voilà, on a fait ça. Je n'ai pas fait énormément, mais c'est des choses qui m'ont... Même après moi j'ai fait j'allais à la salle aussi. Donc j'allais très souvent à la salle, même encore aujourd'hui. Forcément, ça va de pair. On est compétiteurs. Dans notre esprit, dans notre tête, on est, mon frère et moi, on est des compétiteurs. On veut toujours aller plus loin, on veut se pousser plus loin. Vraiment, ce dépassement, ça a toujours été ça. Donc dès qu'on a commencé à apprendre cette discipline, forcément, on s'est dit, on a du retard à rattraper, donc il faut qu'on y aille. Donc au début de l'entraînement, en fait, on s'entraînait 4 heures par jour, 5 fois par semaine.
Quand même.
Oui.
Eh oui. Et quelle a été votre toute première compétition?
Ça a été en 2000, bon, ça fait un petit moment, si je me rappelle bien, c'était en 2015, je crois. Donc ça fait un petit moment déjà. J'ai commencé direct par une Coupe de France.
Ah oui?
Oui, direct.
Ah ouais, direct. Et donc
c'était impressionnant parce que même si on commençait à prendre du niveau, le niveau était encore bien élevé. Donc c'était impressionnant de voir d'autres compétiteurs et puis même de voir sur la compétition, c'est vraiment cool de voir d'autres personnes qui ont cette même passion et qui ont cette envie aussi de s'entraîner, d'aller plus loin. Donc c'était assez impressionnant et puis j'ai pu faire aussi des rencontres forcément.
Vous êtes arrivé combien? C'était en 2018?
La compète que j'ai fait en 2018, c'est là où j'ai fini 4e au championnat de France.
D'accord, ouais. Voilà. Ok. Et la toute première?
La toute première, j'avais pas fait encore de place.
Non.
Pas encore. Pas encore, c'était le début. Donc, en plus, c'était la Coupe de France. Je commençais à apprendre et c'était ma première compète. Et j'avais pas encore fait de place, mais forcément, c'était le but de faire des places.
D'accord. Alors, par la suite, vous avez enchaîné des compétitions?
Oui. Donc après on a continué à faire des compétitions, j'ai fait la Coupe de France, même avec mon frère on a fait Coupe de France, Championnat de France, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, voilà, et sur ce Championnat de France effectivement j'avais fini 4e et mon frère a fini sur le podium 3e.
Ah oui.
Voilà, et l'année dernière il a fait une compétition, il a fini vice-champion de France.
D'accord, comment il se nomme?
Il s'appelle Tommy.
Tommy, ok. Mmh. Et qu'est-ce que ça représente pour vous justement ces classements?
C'est une satisfaction aussi personnelle parce que se dire qu'on s'entraîne et se dire qu'on puisse qu'on a un meilleur niveau que certaines personnes, ça fait vraiment plaisir parce que ça montre aussi notre acharnement sur l'entraînement et ça montre qu'on est capable d'aller plus loin et de se dire avoir une place c'est assez méritant, que ce soit pour moi le roller ou même pour d'autres compétiteurs qui font d'autres sports, quand on voit les JO où ils sont sur leur podium avec leur médaille de bronze, d'or ou d'argent, je pense que cette sensation, il faut la connaître. Quand on est passionné par un sport et qu'on en fait tout le temps et qu'on fait de la compétition, c'est une sensation à connaître.
Alors, vous êtes à la fois un athlète et un entrepreneur, on peut dire ça comme ça?
Oui, on peut le dire, oui.
Quel est le lieu, la ville ou le pays où vous rêvez de poser vos rollers pour une vidéo?
À New York.
Ah ouais, pourquoi?
Parce que New York, c'est la ville où il y a le plus de gens qui font. Une des villes où il y a le plus de gens qui font du roller. Il y a des événements incroyables. Puis qui ne rêverait pas de rouler, que ce soit même à pied, ou qui ne rêverait pas d'aller à New York. Et se dire être dans les rues de New York en roller, c'est magnifique.
Vous êtes déjà parti là-bas?
Jamais.
Jamais? Bientôt peut-être?
Bientôt, avec ma compagne.
Oui?
Bah oui.
C'est un projet. Je regarde son visage.
ça serait un projet si on a la possibilité. Après, forcément, tout dépend aussi sur le côté financier, s'il y a la possibilité.
Financier, ouais. J'ai envie de rebondir sur cette phrase. On gagne quand même des sous-sous, on va dire ça comme ça, de l'argent sur les réseaux sociaux.
Oui.
Oui.
On va dire que par rapport à d'autres influenceurs, je ne vais peut-être pas gagner autant que d'autres. Comme j'ai expliqué au tout début, je fais un sport assez niche. On va dire que je vais être entre guillemets un des premiers à être dans l'influence en roller. Il y en a quelques-uns que je connais personnellement qui sont dedans aussi. Mais je fais partie aussi de ces personnes-là qui essaient de le développer à travers ces réseaux. Et de plus en plus, effectivement, j'ai des marques qui me contactent, où je peux entamer aussi sur de la collaboration avec un retour financier. Donc, on va dire que c'est de la progression. Donc forcément, pour le moment, je ne peux pas. Il n'y a pas ce retour financier suffisant.
Est-ce qu'on peut avoir une petite fourchette pour comprendre ?
Ça dépend des mois, mais ça peut varier entre. Comme je vous dis, ça peut.
Sur les réseaux sociaux.
Uniquement réseaux sociaux.
On va faire. Voilà.
Ça peut varier. Ça peut aller de. Ouais, de 300, 400 euros. Ça dépend des mois. Ça peut être moins aussi. Ça peut être en dessous de 200. Voilà, ça reste assez niche. Donc, on va dire, j'ai pas autant de visibilité qu'un influenceur plutôt classique. Donc, j'atteins un public quand même de plus en plus gros. Et c'est pour ça que je lâche pas ce que je fais, parce que je sais que là ça commence à vraiment se développer et que de plus en plus je vais pouvoir le développer, même sur avoir des retours de plus en plus gros sur le côté financier.
Et par exemple avec les marques, avec des collaborations, est-ce qu'il y a l'aspect financier ou bien on vous offre des cadeaux ou,
J'ai les deux.
Vous avez les deux.
J'ai les deux. Donc, de temps en temps, j'ai on m'envoie du matériel pour que j'en fasse des vidéos. Ou alors, effectivement, il y a aussi ce retour financier, parce que les marques savent aussi que s'ils contactent un créateur de contenu et qu'il crée son contenu pour la marque, il y a du travail derrière. Ce que beaucoup pensent que c'est pas du travail. Travailler pour faire les réseaux, être sur les réseaux, ça demande beaucoup de boulot. C'est pas forcément juste poster une vidéo et c'est comme ça. Donc c'est aussi travailler sur comment construire sa vidéo, comment bien la faire pour que les gens puissent rester sur cette vidéo, que les abonnés puissent rester et comprendre ce que je raconte sur la vidéo. Donc c'est aussi réfléchir à un scénario, ou réfléchir à des scènes, ou réfléchir au plan qu'on va prendre. Ça demande du travail, donc forcément les marques en sont conscients, donc ils font en sorte qu'il y ait un retour financier sur ça.
C'est combien d'heures par jour de poster, de tourner des vidéos? Et est-ce que aussi faut poster régulièrement, j'imagine?
Oui, les réseaux, faut poster assez régulièrement, parce que forcément, sauf sur le côté contact avec ses abonnés, il faut l'algorithme, il ne priorise pas les gens qui postent une fois tous les 6 mois. Donc vraiment, il faut être assez régulier là-dessus. Il faut être toujours présent. Aussi, après, sur le côté abonné, forcément, il faut pouvoir partager avec ses abonnés. Donc, il faut qu'on soit présent pour ses abonnés. Si demain, on ne poste plus rien pendant un an et qu'il n'y a plus rien, les abonnés se disent « Mais pourquoi je ne le vois plus ? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc après, je peux comprendre que on peut comprendre que même moi, que je suis d'autres personnes, si je vois cette personne, je la vois plus pendant un an, ça peut être des soucis aussi perso, ce qui est normal, on a tous une vie. Excusez-moi. Donc si jamais, voilà, c'est faut être très présent, ouais. Faut être assez présent et puis vraiment partager un maximum sur les réseaux.
Alors. J'ai vu, hein, je regarde, je suis fan vraiment hein, de vos vidéos, elles sont exceptionnelles. Alors vous faites aussi des publicités, des collaborations avec des restaurants, dans des lieux aussi.
Oui, c'est vrai que c'est différent de ce que je fais d'habitude, parce que c'est pas, on va dire, entre guillemets, sur ce que je poste par rapport au roller. Mais effectivement, ça m'arrive d'avoir des petits partenariats avec des restaurants ça va être plus local, parce que ça va être à côté de chez moi. Mais oui, ça m'arrive de temps en temps. C'est pas courant par rapport à mon profil. Mais je trouve ça sympa de le faire aussi, parce que par rapport à ce que je poste, effectivement, je poste beaucoup de roller. Mais il y a aussi ce côté, je veux que les gens sachent aussi ce que je fais. Je fais pas que du roller dans ma vie. Forcément, j'ai une vie à côté. On voit aussi sur mes réseaux que j'ai un chien. On voit que j'ai des chats, on voit que j'ai une copine, on voit que j'ai une petite vie aussi assez classique au final, parce que même si j'ai du monde sur les réseaux et que je reste à avoir une vie plutôt classique, je suis pas quelqu'un qui va avoir des événements, des soirées tous les soirs, qui va être invité à toutes les soirées événements marques, je partage un petit peu ma vie, quoi. Donc voilà.
Vous les voyez les abonnés, vous leur donnez des rendez-vous?
Je ne fais pas de rendez-vous à proprement dit, parce que pareil, sur ça, comme je disais au début, j'ai pas l'impression que je peux entamer ce genre de choses. Peut-être que si, peut-être qu'il y a certains abonnés qui vont dire oui, fais des rendez-vous. Personnellement, je ne...
Vous proposez jamais de rendez-vous?
Non.
Même pour faire du roller?
Ça m'arrive de temps en temps de voir avec des gens qui me demandent, qui m'envoient par message, est-ce que c'est quand tu veux faire du roller, est-ce que je peux faire du roller avec toi? Je leur réponds avec plaisir, je leur dis bah oui c'est possible. Après je leur dis pas que quand que je peux le faire de suite, parce que forcément comme je dis tout à l'heure, j'ai une vie, il y a beaucoup de choses aussi, donc c'est compliqué de tout gérer. Mais après, souvent, j'arrive à rencontrer mes abonnés parce que j'ai beaucoup d'abonnés aussi de ma ville, de Toulon. Et souvent, il y a des abonnés qui viennent me voir, qui viennent me parler, qui aiment bien mon contenu, donc qui me le disent. Et avoir ce retour-là aussi en physique, ça fait vraiment plaisir.
Quel est votre rêve ultime pour l'avenir de votre carrière ?
C'est d'avoir, concernant ma discipline et concernant ma passion, c'est d'avoir la possibilité de faire des représentations, de faire des petits shows en roller pour des événements, vraiment de pouvoir aussi montrer ma discipline au plus grand nombre. Plus forcément je fais d'événements, plus j'arrive à atteindre du monde, et de développer aussi cette discipline et de montrer aux gens que le roller n'est pas forcément de l'ancien temps, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça. Dans les années 90-2000, c'était le sport phare de ces années-là. Et avec les années, ça s'est un petit peu étoffé. Voilà, ça s'est un petit peu, ça s'est un petit peu abaissé à ce niveau-là. Donc moi, le but, c'est que je puisse le redévelopper et que je dise que les gens, oui, le roller, en fait, non, c'est pas démodé, c'est toujours à la mode, c'est toujours là. Et c'est ce que j'essaie de montrer sur mes réseaux, quoi.
Quel message fort aimeriez-vous faire passer à ceux qui hésitent à se lancer, que ce soit en roller ou dans la création de contenu?
Le message pour moi, ça serait de faut rouler, parce que c'est ce qui permet de s'évader, ça change de marcher. Il y a vraiment ce côté sport. Maintenant, aujourd'hui, c'est la priorité aussi, c'est de pouvoir faire du sport à tout moment. Et il y a ce côté partage. Donc, c'est le moment où on peut rencontrer du monde, se sociabiliser avec le plus de monde possible, et puis pouvoir créer des événements, pouvoir s'amuser. Et c'est surtout ça aussi, le roller, c'est s'amuser, kiffer, c'est tout.
Un mot pour les personnes qui vous regardent sur les réseaux sociaux?
Je vous aime les gens, je vous adore. J'espère que vous allez continuer à me suivre encore pendant plusieurs années, suivre ce que je fais. Et moi, je continuerai à vous partager un maximum tout ce que je fais, ma passion. Et le but, c'est qu'un jour, qu'on puisse aussi tous se rencontrer en même temps et faire... beaucoup de choses ensemble, et que je puisse vous apprendre énormément de choses.
Si vous ne deviez retenir qu'un seul mot de cette aventure incroyable, de l'enfant qui découvre ses premiers rollers au créateur de contenu influent, quel serait-il?
Je lui dirais garde tes premiers rollers, parce que aujourd'hui je les ai plus, et je lui dis garde tes premiers rollers parce que ces rollers là, c'est ce qui va te, ça va être ton trophée plus tard, en te disant c'est grâce à ça que tu vas aller aussi loin.
Avez-vous des projets, des événements, des collaborations à venir?
Oui, j'en ai quelques-unes. Là, j'en ai deux en cours. Ça va être avec des marques comme de caméras ou de vêtements. Après, j'ai des projets aussi sur le côté professionnel. En ce moment, je me forme à être prof de roller.
Bien.
Donc oui, je veux mélanger mon côté, ma vie professionnelle et ma passion. Donc ça veut dire que là, je me forme en faisant le BPJEPS, pour être à la fin de l'année, avoir la possibilité d'enseigner. Et forcément, parce que j'ai les réseaux, mais je veux aussi avoir ce côté stable pour la suite, et avoir mon diplôme et avoir la possibilité d'enseigner.
À la fin d'un livre que vous auriez écrit et qui serait considéré comme un chef-d'œuvre, quel serait le mot de la fin?
J'y avais jamais réfléchi. Pense pas au passé, pense à l'avenir et garde tes objectifs en tête.
Jérémy Herry, un immense merci d'avoir partagé votre énergie, votre passion et votre parcours, inspirant quand même. Hein. Et merci beaucoup aussi à votre compagne, Laura.
Merci, oui. Et merci à vous aussi d'avoir pris ce temps. et de pouvoir m'écouter.
Avec grand plaisir. On peut vous retrouver sous le nom de Jérémy Slalom sur TikTok et Instagram. Avez-vous d'autres endroits où l'on peut vous suivre pour ne rien manquer de vos aventures sur roulette?
Oui, sur YouTube. Je commence à poster aussi des vidéos sur YouTube. Je suis qu'au début, donc voilà, il y a quelques vidéos qui vont être postées. Et après, non, j'ai pas d'autres réseaux à part TikTok et Insta.
Je vous souhaite le meilleur, Jérémy, et merci à Laura beaucoup. Également.
Merci beaucoup.
C'était l'œil de ça pour Fréquence Mistral. Merci à toute l'équipe de Fréquence Mistral. Et n'oubliez pas, les amis, peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas de bon cœur, vous ne valez rien. Bonne soirée à tous et restez branchés, évidemment, sur Fréquence Mistral.
She goes out at the end of the week, full makeup in the mirror, so excited to finally meet the man who will see her. She checks in, but she doesn't hear back, and she's already parking patiently, waiting to see if he'll pull up behind her. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me in paradise. Another day.